il ne faut plus dire qu'il ne se passe rien en Bourgogne. Ce soir, à la vapeur, à Dijon, Stuck in the Sound et Adam Ketcher vont mettre du son. Shake, 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 shake. Alors, pour commencer, Stuck in the Sound, bonjour.
Salut.
Salut.
Quel enthousiasme débordant, les gars.
Tu trouves?
Non.
On va la refaire, je pense. Hey, comment ça va?
Bon alors, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet. Comment vous anticipez cette tournée? Parce que, bon, on sait tout le succès du premier album, on sait tout le succès de certains morceaux comme Toy Boy, et puis là, lancement du deuxième album. Comment vous abordez ça? Est-ce que vous faites le deuil de certains morceaux, ou est-ce que vous continuez quand même toujours à les jouer?
On fait en effet le deuil de certains morceaux, mais plutôt, en fait, on a plutôt rajouté des titres à ce qu'on joue en live, plutôt que d'en éliminer vraiment. Nous, on aime bien, quand on va voir des groupes, on aime bien qu'ils jouent plusieurs de leurs albums, donc nous, on continue à jouer des morceaux de l'ancien album, et en plus, bien entendu, pas mal de morceaux du nouveau. Mais on n'en a pas abandonné tant que ça, en fait.
Donc du coup, ça fait des sets surtout plus riches.
C'est super cool, parce qu'il y a plein de couleurs qui se mélangent, en fait, parce que la couleur du premier et la couleur du deuxième sont deux couleurs complètement différentes. Par exemple, je vais prendre...
Couleur, café.
Le rouge, et je vais prendre le jaune, le bleu, le rouge et le bleu, et c'est deux couleurs complètement différentes, et du coup, en live, du coup, ça donne plein de couleurs différentes, et c'est ça, c'est bien.
C'est marrant que tu abordes justement l'idée des couleurs, parce ouais. que vous avez accordé une interview à RFI, vous parliez d'une couleur bleutée sur ce deuxième album, avec un espèce de côté souffrance, nostalgie de l'adolescence. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu mettre en exergue avec Shoegazing Kids?
Bah ouais, vu que la pochette elle est bleue. Ouais, je trouve que c'est la couleur qui va le mieux à l'album, ouais.
Ah, vous qu'il est beau.
Mais il est bleu.
Ouais, même si on peut retrouver dans cet album un peu de jaune, un peu de blanc cassé aussi, de mauve aussi un petit peu. Mais c'est vrai que la couleur prédominante est quand même le bleu.
Ah, j'aime beaucoup.
Vous pouvez expliquer ça un peu,
hein. Bah, je pense que Eric Serra l'expliquerait mieux que nous. Expliquez ça, vas-y, parle de la nostalgie, Manu. Oui, donc l'album, en fait, c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on travaille sur des thématiques fortes comme l'enfance ou l'adolescence. Et là, on s'est vraiment concentré sur l'adolescence et sur cette jeunesse à laquelle on a appartenu aussi.
Là, je vois déjà l'esprit.
Jeunesse pervertie par l'ennui, en fait. On était dans notre chambre, on se faisait chier et on avait quand même une passion. Donc moi, c'était la musique, quoi. Et je rêvais un jour de réussir... avec ma guitare, et en attendant je me faisais chier dans ma chambre et mes parents m'engueulaient parce que j'avais des mauvaises notes en cours et voilà, c'était un peu ça. Et donc ça parle un peu de tous ces souvenirs des premières claques quand t'as des mauvaises notes ou de la première boum, les premiers amours, voilà, toutes sortes de phases difficiles et magnifiques que peut traverser un adolescent.
Vous voyez vous-même comme de grands ados, parce que vous avez quand même passé l'âge du bac?
Bah ouais, on est un peu ce qu'on appelle des adultes qui... on puise notre réservoir artistique dans nos souvenirs, quoi. Donc on est vachement rattaché à ça, à l'adolescence. On n'est pas des grands ados, quoi. On est des adultes, mais quand même avec une nostalgie.
Justement, que la musique, en tout cas le courant un peu pop indé rock actuel, puise beaucoup dans le début des années 90 avec justement des titres comme I'm a Creep, vraiment des morceaux qui étaient un peu les premiers à parler vraiment de cette souffrance, du côté un peu torturé qu'on pouvait vivre à ce moment-là.
Moi, tu parles en France,
ouais.
Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est un des rares groupes à assumer vraiment des groupes comme les Smashing Pumpkins, ou même Nirvana. Je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui occultent Nirvana et qui parlent plus de, je sais pas, de
la scène british.
De la scène
pop, ouais. Il y a
ouais,
beaucoup d'influences
british. Ouais. Alors que nous, on parle pas jamais de ces groupes. On parle des Smashing, de Rage,
des Pixies,
ouais. Non, on se sent assez seul avec ces influences-là, quoi. Il y a quelques groupes qui ont les mêmes références, mais on n'est pas beaucoup. Ouais.
Vous pensez que ça manque?
Non, ça manque pas. C'est pas un manque, c'est plus. Il faut tout, quoi.
Tant mieux si tout le monde fait pas exactement la même chose que nous, c'est bien. Enfin, je sais pas.
Pour ce deuxième album, il y a un côté presque organique à l'agencement des morceaux. Il y a une espèce, sans aller jusqu'à dire que ça pourrait être un concept album, il y a quand même une espèce de linéarité qui est intéressante. Vous avez vraiment réfléchi à ça ou est-ce que c'est venu comme ça ?
En fait, la différence avec l'album précédent, c'est qu'on l'a fait dans un laps de temps plus court. On a fait une tournée de 100 dates et on était frustrés artistiquement. Donc du coup, on est direct parti en studio à Bordeaux et on a composé l'album en 3 fois une semaine. Et c'est pour ça que tu retrouves c'est une espèce d'homogénéité, enfin une linéarité, voilà, je crois que c'est ça.
Non ouais, ouais, en plus, donc déjà tous les morceaux ont été composés sur un laps de temps assez réduit, et en plus on avait vraiment envie au niveau de la production, de la couleur vraiment sonore du disque, qui est ce sentiment d'unité, quoi. On voulait vraiment que la prod fasse un tout uni avec tous ces titres, donc en plus voilà, ça en a rajouté une couche sur l'unité du truc, quoi.
On voulait faire un vrai album, quoi, on voulait faire une vraie œuvre, quoi. Bon, on l'a fait. On est content. On est content. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas retrouver le côté fou de Stuck des débuts et tout. Mais en même temps, les débuts de Stuck, c'était une compilation de titres qu'on avait composés sur 4 ans. Quoi. Et on avait besoin de faire cet album-là, tel qu'il est.
C'est vrai que le premier album, en fait, c'est le qui a été vraiment connu, on va dire, c'était quand même le deuxième.
Ouais.
Vous aviez déjà fait.
Ouais, c'est le premier officiel et c'est le deuxième officieux. Ouais, ouais. En fait, que ce soit le premier officieux ou le premier officiel, c'est la même chose. C'est une compilation. Déjà, le tout premier, c'était vraiment de la recherche, quoi. On faisait des chansons, on avait besoin de les poser sur une galette pour passer à autre chose. Et on a fait quoi ? On a fait 500 pressages de ce disque. Donc, ce disque, il n'existe pas, quoi, en fait, quoi. Par contre, le tout premier, Nevermind the Living Dead, vrai premier album.
Chez Discographe.
Voilà. On a récupéré des titres du tout premier, on les a mis dans cet album, plus des nouvelles compos qu'on a fait sur 3 ans, quoi. Et c'est pour ça que tu peux retrouver dans un album à la fois Delicious Dog ou Toy Boy, deux titres complètement différents, quoi. Et on avait besoin de faire un vrai album homogène, quoi. Et surtout sans de deuxième Toy Boy. Il y a beaucoup de monde qui attendait un deuxième Toy Boy, mais on avait besoin de faire autre chose de complètement différent. Un truc qui soit plus proche de nous, en fait, plus personnel. Please baby talk. I will be
nice and tender. Too late, she's gone. Qu'avec simplement le refrain de check, 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 vous allez pouvoir occuper l'esprit d'énormément de gens pendant de longues semaines après ce concert.
Ouais, c'est assez fou ce phénomène Toy Boy, quoi. On est super fiers, quoi. On est toujours surpris, hein, du phénomène Toy Boy, parce que nous on ne la voit pas comme les gens peuvent l'entendre, quoi. Pour nous, c'est un titre comme un autre, quoi, et c'est même pas notre préféré. Je pensais pas quand j'ai craché la première fois Check 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 ou même Please Baby Talk, parce qu'il y a deux trucs dans la chanson qui restent dans la tête des gens, je pensais pas que ça allait marquer autant, quoi. Bah, ça fait plaisir, quoi.
Vous n'êtes pas senti dépossédé de la chose, justement, si c'était pas votre morceau préféré ?
C'est un morceau qu'on adore.
Ouais, c'est un morceau qu'on aime beaucoup, mais qui a un statut vraiment particulier parmi nos morceaux, quoi. C'est très bizarre, quoi. On a le sentiment depuis quelques temps que limite il a une vie propre, quoi, que c'est même pas Stuck, quoi. Il y a Toy Boy et Stuck. Par ailleurs, c'est assez étrange.
Ouais, ça arrive de la jouer et de se dire, tiens, mais c'est même pas à nous, quoi. On la joue, tu vois, les gens ils la chantent et tout, mais ouais, c'est vraiment bizarre comme sensation, quoi. Mais c'est cool d'avoir un tube, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Je pense que maintenant ça serait bien d'essayer de le battre. Prochaine étape, ça va être de battre Toy Boy. On va essayer de faire un deuxième tube.
Et justement, l'appréhension par rapport à la tournée sur ce deuxième album ?
Non, du tout. On commence à bien connaître la France parce qu'on a fait déjà 100 dates avant, une grosse tournée. On sait qu'il y a des endroits où c'est très difficile, le indie rock, et d'autres endroits où c'est cool, et des endroits où c'est des surprises, où tu te retrouves à jouer devant 500 personnes alors que tu pensais que tu allais jouer devant 10 personnes. Et là, c'est ce qui arrive, donc on est super content. Par contre, on tombe des fois sur des endroits vraiment glauques avec un public dépressif. Voilà, mais bon, c'est la vie, quoi, c'est notre quotidien.
Des noms, des adresses ?
Non, ouais, si, on peut te dire, hier à Riorges, c'était horrible, quoi. C'était un public, il y avait 350 personnes et il n'y avait pas un bruit. Même quand on jouait Toy Boy, il n'y avait pas un bruit, c'était très dur. C'était très dur. En fait, c'est l'effet aussi deuxième album, on est hyper médiatisé, enfin hyper médiatisé, façon de parler, entre guillemets, quoi. Mais du coup, il y a des gens qui font, ah ça y est, les Stuck, ils sont super connus, ils buzzent grave, ils cartonnent, ça y est, c'est plus comme avant. Bah mec, viens à Riorges et viens voir, viens voir comment c'est, quoi. C'est pas la joie, quoi. Mais c'est cool, c'est quand même rare, heureusement, quoi.
Ouais. Pour revenir au deuxième album, vous êtes parti, je crois, à New York, ou en tout cas, vous avez bossé avec Nick Sanzano.
Ouais.
Alors, lui, il a quand même, bon, certes, il a bossé avec Sonic Youth, qui est quand même un peu une référence
plutôt classe.
Ouais. Et puis, il a aussi quand même travaillé avec pas mal d'artistes plutôt branchés hip-hop. On pense
c'est
à
vrai.
Public Enemy, IAM. Qu'est-ce que ça a apporté, justement, cette sensibilité différente au deuxième album ?
L'histoire de Nick Sanzano, c'est qu'il nous a raconté que Sonic Youth, quand ils sont venus le voir, et en fait, Sonic Youth était super fan de Public Enemy, et ils ont demandé à Nick Sanzano, c'est ce son-là qu'on veut, quoi. On veut comme Public Enemy. Et c'est comme ça que Nick a fait le son de goût, quoi, et Daydream Nation.
C'est pas tant que ça à Public Enemy.
Ouais, ça semble pas du tout à Public Enemy, mais c'est marrant parce que.
Je pense qu'ils lui en ont beaucoup voulu.
Du coup, il nous raconte ça en fait, et en même temps, il nous dit bah voilà, et vous, vous débarquez, et vous voulez le même son que Sonic Youth, et au final, vous avez votre son. Donc c'est.
10 ans plus
c'est
tard, marrant.
10 ans plus tard.
Bah, on l'a contacté tout simplement, on avait quelques listes d'ingénieurs du son avec qui on voulait travailler. Et puis bon, sur nos albums de Sonic Youth, c'est vrai que Nick Sanzano revenait vraiment souvent. Et donc on l'a contacté tout simplement par email, il nous a répondu très gentiment, ça m'intéresse, j'ai écouté vos morceaux, vos démos, on a envoyé quelques titres. Et donc il nous a invité 15 jours à Brooklyn pour mixer dans un studio énorme où il a passé 15 jours à mixer les 12 titres de façon super
simple.
Ouais, très humaine et très pédagogue en fait. Il est
pédagogue et ouvert quoi.
Ouais, voilà. Il est professeur à l'université de New York. À côté de ça, et du coup, dans la discussion qu'on avait avec lui, ça, il n'a pas agi comme un producteur, mais vraiment comme un mixeur exécutif.
Mais qui met les mains dedans, quoi.
Qui met les mains dedans, mais on était quand même derrière, on parlait tout le temps avec lui, au début des sessions, de comment on allait mixer, vers quelle direction on allait. On lui faisait écouter différentes choses, ça allait de Justice. On lui apprenait un peu la compression à la française.
C'est
et
Justice.
Ça.
Et Farmer,
des trucs françaises.
Patricia Cass, Michel Sardou.
Ouais, il connaissait pas Justice, on lui a fait écouter Justice pour la grosse compression, en fait, c'est des trucs techniques après quoi. Parce qu'on avait ce titre, ouais, en fait, on a ce titre, on voulait que ça tabasse un peu façon électro et tout, mais il comprenait pas, en fait, ils connaissent pas ce son français, ce truc French Touch de bien saturer les basses et tout. Après, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Écoutait des trucs, on lui donnait des couleurs aussi pour chaque titre et après on se promenait toute la journée, on revenait le soir, il avait fini de mixer et c'était magique quoi, franchement. Ouais.
Ça s'est passé longtemps après l'enregistrement de l'album, le mixage ?
C'est une bonne question, je me souviens pas.
Même pas. En fait, on a enregistré l'album en août, toutes les prises de base dans le sud de la France et jusqu'à début septembre, on enregistre encore des prises de voix en fait à Paris et on est parti, voilà, en septembre, octobre, on est parti à New York. Donc c'était assez frais, quoi. Tout s'est fait sur 2-3 mois, je pense, un truc comme ça.
Vous aviez une idée bien précise, quand même.
Oui. En fait, nous, on avait une idée vraiment très précise de ce qu'on voulait, et on a enregistré et prévu, disons, toute la forme du disque au niveau du son avec notre ami Romain Delaval, un gestion qui avait travaillé avec nous avant. Et donc, on avait vraiment une idée très précise de ce qu'on voulait, et du coup, ouais, c'est clair, quand on est allé voir Nick, on lui a vraiment exposé nos envies, et ce qui était cool, c'est que lui-même était hyper ouvert, quoi. Dès le début, il nous a demandé vraiment, il voulait être guidé et pas du tout se lâcher, je sais pas quoi. Et donc, voilà, au final, on a l'impression, nous, qu'il nous a vachement écouté, et malgré tout, quand on écoute le disque, on sent vraiment sa patte sur tous les morceaux, quoi. C'est impressionnant, c'est subtil et classe. Nick, respect.
Bah oui, mais vous croyez qu'en radio ça va marcher ça ?
Vous auriez envie de vous définir comme ça, subtil et classe ?
Non, on veut pas se définir, on laisse ça aux journalistes de nous définir comme ils veulent. Le mec vénère. Ils disent ce qu'ils veulent sur nous, nous on est des icos, on est des
enfants. Tu veux me frapper après l'interview ?
Non, pas toi. Non, pas toi. Mais c'est notre passion, on fonce la tête baissée, ça fait 6 ans qu'on bosse tous les quatre. Et on est des passionnés quoi, de notre musique et de la musique qu'on a écoutée quand on était ado. Et voilà, notre passion, c'est de faire des titres et de faire vibrer les gens qui aiment notre son. Quoi. Point barre. C'est aussi simple que ça. Quoi. Et voilà, et notre but aussi final, c'est de jouer un peu partout dans le monde, à échelle modeste, bien sûr, quoi, parce qu'on a conscience qu'on fait un rock sur le fil, quoi. entre indie, FM... Je vais pas reprendre les termes de certains connards.
Un rock modem, quoi. Au milieu, c'est merveilleux.
Très, très bien. C'est très bien, c'est très bien dit.
Bon, ce soir, vous jouez avec Adam Kecher.
Adam Kecher.
Adam Kecher,
mais
merci.
Mais pas Kecher, je sais pas lequel.
Ah.
Pardon.
Bon, Kecher.
Kecher.
Adam Kecher. Ça représente quoi?
Rien du tout. On les a foutus sur toute la tournée, ils sont là, ils sont derrière nous, ils nous collent au cul.
Oh les cons.
Ouais, ils sont tous homosexuels en plus, donc c'est chaud, ils nous draguent tout le temps après les concerts, ils sont insupportables quoi. Mais sinon, on les aime bien parce qu'ils sont bordelais quoi. Et les bordelais, ils sont cool, ils ont cette réputation d'être adorables.
Pas comme les Parisiens.
Ah non, les Parisiens, non, les Parisiens, c'est des grosses merdes. Ouais.
Bon, ça va, vous êtes sauvés, vous venez du Val-de-Marne.
Ouais, exactement, c'est bien, t'es bien renseigné. On n'est pas que des Parisiens, on est des banlieusards, et c'est différent, c'est pire.
Bon, les pires, on doit avoir peur de vous dans quelle ville, quel coin, quel festival à venir?
Oui, c'est pour faire de la promo en fait. Bah, franchement, moi j'attends avec impatience Garo Rock, Marmande. Je crois qu'on va tout faire péter là, ce festival. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de confirmé? L'Art Rock à Saint-Brieuc. Ça va le faire grave.
Les
trois éléphants, un papillon de nuit, Pontiéro aussi à Cannes. Et Printemps de Bourges aussi. C'est Printemps de Bourges.
Et sinon, en fait, pour faire beaucoup plus simple, www.myspace.com/stuckinthesound.
Exactement. Pour faire plus simple, même stuckinthesound sur Google avec des guillemets, quoi. Voilà.
Ouais, faut attention à pas mettre trop de slash parce que après les gens ils tombent sur la gueule. Je sais pas pourquoi.
Sur cette merveilleuse touche d'humour, les gars, je vais vous laisser répéter. Merci beaucoup.
Merci à toi.